Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 13h à Paris et 14h à Kiev. C'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour à toutes et à tous.
Avant de retrouver Andréane Mellard et ses invités à Kiev, on va nous aussi parler de l'Ukraine.
Oui, alors que l'Ukraine entre dans sa quatrième année de guerre contre Moscou, quelle paix, à quel prix, à quelles conditions? Plusieurs dirigeants occidentaux sont à Kiev aujourd'hui pour marquer leur soutien. La Russie, elle, affirme qu'elle ne cessera les hostilités que quand elle aura obtenu ce qu'elle veut des négociations. On sera aussi à Marseille, dans le sud de la France, où le consulat russe a été visé par 3 engins explosifs ce matin. Il n'y a pas de blessés.
RFI.
À suivre aussi une suspension des sanctions européennes contre la Syrie dans certains secteurs économiques clés, la banque, l'énergie et les transports. Et puis la sordide et tentaculaire affaire Le Squarneck en France. Le procès de cet ancien chirurgien va s'ouvrir dans quelques minutes. Il est accusé de violences sexuelles sur près de 300 patients, essentiellement des enfants. Et cette question, comment a-t-il pu passer entre les mailles du filet pendant 25 ans ?
Une alerte aérienne a été déclenchée tout à l'heure sur tout le territoire de l'Ukraine en ce jour du 3e anniversaire de l'invasion russe.
Et en pleine visite d'une douzaine de dirigeants occidentaux, je vous le disais, en soutien à Kiev, où l'on vous retrouve, Anastasia Becchio. 3 ans de guerre, 3 ans de résistance et d'héroïsme, c'est ce qu'a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a appelé à une paix réelle et durable cette année.
Oui, malmené par l'administration américaine, occupé à se rapprocher de la Russie, Volodymyr Zelensky réunit ses soutiens venus en nombre aujourd'hui. Sur les photos de la réunion, on voit 13 dirigeants occidentaux autour d'une table ronde entourant Volodymyr Zelensky. Il y a là le premier ministre canadien Justin Trudeau, mais surtout des Européens. L'Espagnol Pedro Sanchez, la première ministre danoise Mette Frederiksen, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, présents aussi les responsables islandais, finlandais, norvégiens, suédois et baltes. La France est représentée par Benjamin Haddad, le ministre délégué chargé de l'Europe. Emmanuel Macron est en partie plaidé la cause de l'Ukraine et de l'Europe à Washington. Une vingtaine de responsables se sont joints à la réunion par vidéo. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réitéré son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et insisté pour que l'Ukraine et la Russie soient représentées de manière égale et équitable lors de pourparlers. C'est une guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine doit être à la table des négociations. La paix ne peut être déclarée ou annoncée, a martelé Volodymyr Zelensky. En attendant, les hôtes du président ukrainien sont venus avec des promesses concrètes de soutien. Ursula von der Leyen annonce une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros. La Suède promet 100 millions d'euros pour soutenir la défense aérienne de l'Ukraine. L'Espagne, une nouvelle aide d'un milliard d'euros.
Anastasia Becchio en direct de Kiev. De son côté, la Russie a prévenu tout à l'heure. Elle ne cessera les hostilités que quand elle aura obtenu ce qu'elle veut des négociations. Déclaration du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Le président français, lui, est aux États-Unis pour une rencontre avec Donald Trump. Emmanuel Macron va tenter de le convaincre de ne pas tout céder à Vladimir Poutine.
Dans ce contexte, le consulat de Russie à Marseille, en France, a été visé ce matin par des engins explosifs.
Oui, dans le sud, 3 projectiles ont été lancés sur le mur d'enceinte du consulat sans faire de blessé. Sophie Bourlem, on vous retrouve sur place à Marseille. Le secteur a été bouclé.
Oui, tout à fait. Je suis devant la rue du consulat de Russie. Les démineurs viennent tout juste de partir. Le secteur est encore bouclé avec la présence de plusieurs voitures de police. Le personnel et le consul de Russie ont été confinés à l'intérieur une bonne partie de la matinée. Le consulat a été visé, vous l'avez dit ce matin, à 7h30 par des engins explosifs. Ce sont des bombes artisanales qui ont été envoyés dans le jardin du consulat. Donc, 3 bouteilles de soda en plastique de 50 centilitres. 2 d'entre elles ont éclaté et généré des détonations. Une analyse des résidus contenus dans la bouteille est en cours. Il faut préciser qu'il n'y a pas de blessés et pas de victimes. Ce que je peux ajouter également, c'est que la police judiciaire est saisie sous l'autorité du parquet de Marseille.
Sophie Bourlem, en direct de Marseille, le ministère russe des Affaires étrangères, de son côté, a dénoncé, juste après cette attaque, une attaque qualifiée de terroriste. La diplomatie française vient de condamner cette attaque au consulat russe de Marseille. La diplomatie française qui dénonce également la condamnation arbitraire du français Laurent Vinatier. Un tribunal à Moscou a rejeté l'appel de ce chercheur condamné à 3 ans de prison prison pour ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'étranger.
La Russie visée ce matin par un nouveau train de sanctions, le 16e approuvé par l'Union européenne.
Les 27 ministres des Affaires étrangères de l'UE sont réunis là à Bruxelles. Ils doivent aussi évoquer la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. On y reviendra dans Afrique Midi tout à l'heure. Et puis concernant la Syrie, Pierre Benazet, on vous retrouve en direct de Bruxelles. La Syrie frappée par des sanctions européennes depuis le déclenchement de la guerre civile en 2011. Eh bien, une partie de ces sanctions ont été levées.
Oui, parce que depuis la chute de Bachar el-Assad, l'Union européenne se voyait réclamer à corps et à cri de lever les sanctions imposées à partir de 2011. Le 27 janvier dernier, les Européens se sont mis d'accord sur le principe, mais il fallait encore affiner les textes juridiques nécessaires parce que plusieurs États avaient des réserves. Ils demandaient des garanties de la part du nouveau pouvoir. Résultat, il s'agit d'une levée partielle et réversible de ces sanctions. Une levée partielle parce que les Européens ont choisi trois secteurs. Vous le disiez, d'abord la finance, considérée comme indispensable pour lancer la reconstruction de la Syrie. Ensuite, le transport, ce qui augure la reprise de vols directs avec l'Europe et doit permettre entre autres le retour au pays des Syriens qu'ils désirent. Et enfin, l'énergie pour le kérosène aérien, évidemment, mais surtout pour la production d'électricité. Les centrales électriques syriennes ne disposent que de 6% en moyenne du fuel nécessaire à leur fonctionnement. Une levée réversible parce que les Européens veulent des contreparties sur une transition politique incluant femmes et minorités, sur la destruction des armes chimiques et sur la lutte contre la résurgence du terrorisme.
Pierre Benazem en direct de Bruxelles.
Des négociations compliquées en vue en Allemagne pour les conservateurs.
Et leur chef de file, Friedrich Merz, vainqueur des élections d'hier, mais la CDU-CSU ne pourra pas gouverner toute seule. Elle a exclu une coalition avec le parti d'extrême droite, l'AFD, arrivé en deuxième position avec un score record. Friedrich Merz a promis de former une coalition au plus tard à Pâques, soit le 20 avril. Le dernier communiqué très court pour un point sur l'état de santé du pape François. Il a passé une bonne nuit selon le Vatican. Il se repose, le souverain pontife 88 ans, toujours dans un état critique après 11 jours d'hospitalisation.
C'est sans doute la plus importante affaire de pédocriminalité jamais jugée en France.
Le procès de Joël Le Skouarnec vient de s'ouvrir il y a quelques minutes à Vannes, dans l'Ouest. Cet ancien chirurgien accusé de violences sexuelles sur près de 300 jeunes patients, des enfants pour la plupart à l'époque des faits. Beaucoup étaient sous anesthésie et donc ne se souviennent pas de ces crimes que l'ex-médecin a détaillés dans ses journaux intimes. Sordide affaire et ce procès que vous suivez, Baptiste Coulombe, à Vannes, ce procès qui s'annonce très suivi.
Oui, beaucoup d'agitation devant ce petit tribunal. Plus de 100 médias sont représentés, un tiers de médias étrangers, beaucoup de médias espagnols notamment, pour ce nouveau procès labellisé hors norme, 2 mois après le verdict de celui des viols de Mazan. À la différence qu'ici, ce n'est pas le nombre d'accusés, mais le nombre de victimes qui est colossal. 300 victimes face à un unique agresseur présumé, Joël Le Skouarnec, 74 ans, ancien chirurgien accusé de viol, d'agression sexuelle sur de jeunes patients mineurs, des actes pédocriminels qu'il décrivait dans des carnets numériques retrouvés par les enquêteurs. Alors à ce procès, l'enjeu est peut-être moins la culpabilité de l'accusé que la réponse à cette question. Comment a-t-il pu agir 25 ans sans être inquiété? Des alertes ont pourtant été lancées par des collègues. Certains de ses proches semblaient au courant de ses agissements pervers. Alors ce procès, c'est bien celui de Joël Le Skouarnec, mais peut-être également de tous les silences qui ont entretenu l'image d'un professionnel, d'un notable respecté, à défaut de celle d'un pédocriminel caché derrière une blouse de chirurgien.
Baptiste Coulon au tribunal de Vannes, où ce procès vient donc de s'ouvrir. Il est prévu jusqu'au mois de juin. Joël Le Skouarnec risque jusqu'à 20 ans de prison. Et puis c'est un passage obligé. François Bayrou y était, le Premier ministre, en visite tout à l'heure au Salon de l'agriculture à Paris. Il a salué un climat positif, je cite, avec les syndicats agricoles, même si, ajoute-t-il, tous les problèmes ne sont pas résolus.
Merci Charlotte Hydrac. Il est 14h10 à Kiev, où l'on vous retrouve, Andréane Mellard, avec vos invités pour une édition spéciale consacrée à la guerre en Ukraine. Cela fait 3 ans aujourd'hui qu'elle a commencé. Bonjour.
Merci Anne Cantner et bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. RFI en direct de Kiev, effectivement, où il est presque 14h10, ici 13h10 à Paris. Nous sommes le lundi 24 février 2025. Bienvenue à vous.
A dictator without elections.
C'est un dictateur sans élection.
I love Ukraine, but Zelensky is...
J'aime l'Ukraine, mais Zelensky a fait un travail horrible. Son pays est en ruine et des millions de personnes sont mortes pour rien.
Et le président Zelensky veut la démocratie en Ukraine aussi, puisqu'il en est le fruit. Si le système avait été manipulé, il n'aurait jamais été élu président lui-même.
Bon, comment vous dire ? Je suis déçue par Zelensky, je suis déçue pour être honnête. On attend un meilleur président.
Je ne suis pas Poutine. Je ne serai pas encore président dans 30 ans. Je ne le serai plus.
RFI Midi, édition spéciale en direct de Kiev.
Son visage est devenu l'emblème de la résistance de tout un peuple. Cela fait 3 ans que Volodymyr Zelensky est partout, vêtu de son treillis, visage grave, sur les écrans, aux côtés de dirigeants du monde entier, sur les réseaux sociaux où il se met en scène partout. Il demande plus d'aide, plus de soutien pour son pays meurtri par une guerre qui n'en finit pas. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs chefs d'État, représentants européens, mais aussi canadiens, sont à Kiev. Qu'attendent les Ukrainiens de leurs alliés ? 3 ans après le début de l'invasion russe, alors que la guerre continue, meurtrière, l'Europe peut-elle peser face à Donald Trump qui fait absolument tout pour disqualifier Volodymyr Zelensky ? Le président ukrainien fragilisé doit-il passer la main ? On en parle dans la prochaine demi-heure avec nos invités RFI en direct de Kiev. Bienvenue à vous. Et avec moi, dans l'abri souterrain du Café Cupidon de Kiev, à quelques mètres de Maïdan, célèbre place de l'indépendance dans le centre de la capitale ukrainienne, Irina Slavinska, journaliste, écrivaine, directrice de la radio Cultura. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, dans quelques minutes, Volodymyr Yarmolenko va nous rejoindre. Il est en retard parce que, eh bien, figurez-vous que la circulation est très difficile aujourd'hui à Kiev en raison de la présence de délégations étrangères. C'est très compliqué de circuler, notamment en voiture. Mais il va nous rejoindre sans aucun doute. Avec nous également Anastasia Becchio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes régulièrement envoyée spéciale d'RFI en Ukraine. Et vous êtes là pour nous apporter votre expertise et votre connaissance du terrain. À Paris, il est 13h12.
RFI en direct de Kiev.
L'Europe est à Kiev. Nous sommes à Kiev aujourd'hui parce que l'Ukraine est l'Europe. Voilà ce qu'a dit Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, sur ses réseaux sociaux après être arrivée à Kiev ce matin par le train. Elle s'y trouve donc avec ses commissaires et différents dirigeants internationaux. Irina Slavinska, comment est-ce que vous réagissez à ces propos ? Pour vous, est-ce une énième déclaration très vague, à l'image de ce que vous entendez un petit peu depuis 3 ans ? Ou est-ce que c'est le signe d'un engagement fort, d'une évolution ?
À mon avis, c'est un signe d'un engagement très fort, parce que, à mon avis, il est très nécessaire qu'on comprenne que cette guerre, c'est la guerre contre tout le monde démocratique, que Poutine et l'armée russe visent les démocraties, le mode de vie européen. Et moi, je pense que les mots que Zelensky a dit aujourd'hui, par exemple, en parlant de l'Europe qui représente le but stratégique pour la Russie, qui attaque l'Europe et tout le mode de vie européen, je pense que ça reflète un peu ces propos des collègues, des leaders qui ont venu à Kiev.
Est-ce que vous considérez que l'Europe a mis un peu de temps à réagir et à aider vraiment l'Ukraine ?
C'est clair, même dans les propos de mes collègues journalistes de différents pays du monde, on peut le voir, on parle de la 3e anniversaire de la guerre. Mais on sait que la Russie a attaqué l'Ukraine, a occupé les territoires ukrainiens depuis 2014. Donc pour nous, c'est la 11e anniversaire de la guerre. Donc ce n'est pas 3 ans qu'on souffre.
Mais est-ce que vous diriez, Irina Slavinska, qu'il y a maintenant, tout de suite, une prise de conscience de la part des Européens?
Je pense qu'en point tournant, c'était quand même à 2022, quand l'invasion à pleine échelle a eu lieu. Pour plusieurs pays, le fait qu'il y a la guerre en Ukraine est devenu plus clair que jamais, ce qui est bizarre, mais bon, c'est le fait, c'est l'histoire. Et pour plusieurs, je suppose que c'était les propos de Trump qui ont aidé à comprendre que quand même c'est quelque chose de sérieux. Et cette attaque contre l'Europe, qui a eu lieu de la part de Trump, de la part de ses représentants à la conférence de Munich, etc.
Quand même, vous parlez du discours de J.D. Vance.
Bien sûr, c'était américain. Aussi un petit coup de la compréhension qu'il s'agit de quelque chose qui concerne les pays européens.
Et qui participe donc peut-être en ce moment à cette prise de conscience. Alors, on parle de Donald Trump, justement. Emmanuel Macron, aujourd'hui, lui, est à Washington pour parler avec le président américain, le dirigeant français. Jeudi, ce sera au tour de Keir Starmer, le premier ministre britannique. Ils doivent parler du président américain, justement, de la place de l'Europe dans ces négociations, de la place de l'Ukraine. Ils vont évoquer, notamment, l'envoi prochain d'au moins 30 000 hommes, des troupes au sol. Alors, on ne sait pas encore exactement dans quel but, potentiellement pour sécuriser les infrastructures énergétiques souvent visées par la Russie en Ukraine. Irina Slavinska, est-ce que c'est quelque chose que vous attendez, l'envoi de troupes par les Européens ?
Je ne suis pas experte dans ce qui concerne les questions militaires. Ce que je sais, c'est la réalité que je vis comme une citoyenne ukrainienne. Et la réalité de cette nuit, c'était par exemple 185 drones qui ont attaqué l'Ukraine. Et certaines nuits, il y a ce bruit de drones que j'entends juste derrière ma fenêtre. Et d'autres nuits ou d'autres matinées, ce sont les bruits des missiles qui attaquent Kiev, par exemple.
Et c'est vrai que rien qu'à Kiev, on entend évidemment tous les soirs ces alerte aérienne qui dure une bonne partie de la nuit. Alors Volodymyr Yarmolenko, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes l'un de nos invités pour cette édition spéciale. Vous êtes président de PEN Ukraine, rédacteur en chef d'Ukraine World, philosophe, professeur à l'Université de Kiev. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on parlait à l'instant de cette présence européenne aujourd'hui, peut-être d'une prise de conscience de la part des Européens qui essayent notamment de peser auprès de Washington pour exister dans ces négociations. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, je pense que les Ukrainiens ont commencé à dire depuis longtemps que c'est pas la guerre de l'Ukraine, c'est la guerre de l'Europe, c'est la guerre contre l'Europe. Et finalement, l'histoire nous mène jusqu'à prise de conscience que effectivement l'Europe est de plus en plus dans une solitude géopolitique. Et maintenant, l'Ukraine, c'est pas un problème pour l'Europe, c'est une partie de solution, parce que il faut bien penser à la sécurité européenne quand on ne sait pas quoi attendre de la part des Américains. Et en fait, il y a des ambitions géopolitiques et militaires de la Russie qui veulent diviser l'Europe encore une fois entre l'Amérique et la Russie. Donc ici, l'Ukraine, l'armée ukrainienne, la société ukrainienne, c'est en fait un outil aussi pour l'Europe, une valeur et c'est quelque chose qui donne beaucoup à la sécurité européenne.
Europe et Ukraine demandent aujourd'hui des garanties de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qu'est-ce que ça veut dire, ces garanties de sécurité ?
Je pense pas que les garanties de sécurité, c'est un document qu'on peut signer comme ça. Parce que malheureusement, on a signé pas mal des documents avec des garanties de sécurité avec la Russie. On a eu un mémorandum de Budapest. On a eu des accords entre la Russie et l'Ukraine. Malheureusement, ils marchent pas. Donc maintenant, ce qui est très important, c'est de montrer à la Russie que et l'Europe et l'Ukraine sont prêtes à se défendre. Il y a bien sûr, il s'agit des soldats, mais surtout, il s'agit de technologie, surtout, il s'agit de capacité de gagner la guerre économique, la guerre technologique, parce que pour nous, c'est pas tellement, le plus important, c'est de sauver les gens, c'est sauver la vie humaine. Et maintenant, les Russes, ils mènent la guerre dans une stratégie de ne pas valoriser la vie humaine, même de leurs propres soldats. Maintenant, notre but, des Européens, des Ukrainiens, c'est d'inventer une stratégie de défense contre la Russie qui va sauver des vies humaines, mais en même temps, qui va quand même défendre contre cette armée russe.
Et dans cette stratégie de défense, on peut peut-être citer l'OTAN. Écoutez, Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur la question hier soir.
Si l'on parle de la paix en Ukraine et qu'en échange je dois quitter mon poste, je le ferai. Deuxièmement, je le ferai aussi si c'était la condition pour adhérer à l'OTAN. Ma priorité, c'est la sécurité de l'Ukraine aujourd'hui et pas dans 20 ans.
Volodymyr Zelensky, donc, avant de reparler de cette proposition de démission du président ukrainien, un mot de l'OTAN. Une adhésion à l'OTAN, c'est la garantie ultime de sécurité pour l'Ukraine, Volodymyr Yarmolenko.
En théorie, oui, mais on ne sait pas ce que l'OTAN veut dire maintenant avec cette capacité, avec ce comportement errant des États-Unis. Donc, je pense qu'il faut plutôt penser maintenant à repenser l'Union européenne, repenser l'Europe tout entière, parce qu'il y a le Royaume-Uni, il y a le Norvège, qui sont vraiment des pays très très puissants de la part économique et aussi géostratégique. Oui. Il faut penser l'Europe comme un sujet de sécurité et pas seulement un marché unique ou pas seulement une entité économique.
RFI en direct de Kiev, où il est 14h20.
Édition spéciale Ukraine sur RFI.
Et nous sommes dans la capitale ukrainienne, toujours 3 ans après le début de l'invasion russe. L'Ukraine écartée pour l'heure des premières discussions sur l'avenir, sur l'après. Le pays est aussi à la peine sur le terrain. Près de 20% de son territoire a été conquis par les Russes. Les Ukrainiens eux-mêmes reconnaissent que ces territoires ne seront pas récupérés. La situation n'appelle pas à l'optimisme, Irina Slavinska. Est-ce que tout cela pèse sur la cote de popularité de Volodymyr Zelensky ?
Je pense que ce n'est pas la question sur la cote de popularité, c'est la question des vies humaines, comme Vladimir disait dans sa réponse précédente. Je me rappelle, par exemple, l'année 2014, quand la guerre a été commencée, quand la Russie a occupé la presqu'île de Crimée et les parties des régions de Donetsk et de Lugansk, il y avait les gens, même en Europe, qui pensaient que peut-être il faut laisser aller, peut-être qu'il faut laisser ces territoires à la Russie, qu'ils représentent quelque chose de russe, quelque chose de sous l'influence russe. Je dis ça entre de grosses guillemets, bien sûr. Mais depuis 2022, quand on a vu qu'est-ce qui se passe sur les territoires occupés, après la libération de Boutcha, après la libération de Izoum, d'autres villes et de villages dans la région de Kharkiv, par exemple, on sait de tout près qu'est-ce que ça représente une occupation russe. Mmh. Ça ne concerne pas de territoire, ça concerne les vies humaines. Mmh. Et l'occupation russe, c'est une grande fosse commune dans laquelle on retrouve des corps.
Alors, on parlait de la cote de popularité de Volodymyr Zelensky. Elle est de 4%, si l'on en croit Donald Trump, si l'on en croit Vladimir Poutine. Il donne ce chiffre sans aucune source. Ce n'est pas vraiment ce que disent les sondages, Anastasia Becchio.
Non, la cote de popularité de Volodymyr Zelensky est loin d'être basse. Selon l'Institut international de la sociologie de Kiev, c'est un institut réputé, plus de 57% des Ukrainiens interrogés disent faire confiance à Volodymyr Zelensky. Alors, on est bien sûr très loin de la cote de popularité qui frisait les 90% au début de l'invasion russe à grande échelle. Mais ça reste quand même très honorable. Il y a plus de la moitié de la population qui soutient encore le président. Volodymyr Yermolenko, en dépit des critiques qu'on peut entendre, le président Zelensky reste-t-il populaire ?
Bon, je pense que quand même, il prend beaucoup d'énergie de son peuple. Même les citoyens qui sont très critiques par rapport à notre pouvoir, à notre président, comme moi-même, on comprend quand même que on doit avoir cette solidarité, on doit avoir cette unité. Et je pense que c'est juste une incarnation de cette unité, oui. Maintenant, on a des défis sécuritaires, pas seulement de l'Europe, mais qui vient aussi de l'administration de Trump. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que cette pression énorme, ça renforce la solidarité des Ukrainiens.
Alors, le président ukrainien, dont on parle depuis tout à l'heure, qualifié de dictateur sans élection par le président américain. Anastasia Becchio, vous avez fait réagir à ce propos le maire de Boutcha, Anatoli Fedorouk.
Bien sûr, nous sommes scandalisés et indignés. Ces mots sont offensants, désagréables. Lorsqu'il les adresse à notre président, il ne pense pas au fait que nous sommes unis, que nous sommes liés les uns aux autres, du citoyen au président. Et il insulte l'ensemble de l'Ukraine. Il offense tous les Ukrainiens.
Le maire de Boutcha, Irina Slavinska, en quelques mots, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit ?
En gros, oui, mais je pense qu'il faut expliquer peut-être ce sentiment ou cette réaction. Les élections ne se font pas tout seules. Pour ça, il faut avoir assez de sécurité pour les milliers de gens qui vont venir voter. Et dans les conditions que vous avez déjà mentionnées, des alertes quotidiennes, des attaques des drones et des missiles nocturnes, etc., il serait, à mon avis, qui n'est pas spécialisé bien sûr aux élections, etc., mais à mon avis, il serait très compliqué d'aller voter ce jour-là. Il n'y aurait aucune garantie de sécurité.
Et on rappelle que le mandat de Volodymyr Zelensky s'est terminé officiellement en mai 2024. Volodymyr Yarmolenko.
Je peux juste expliquer donc les grands problèmes d'avoir des élections pendant la temps de guerre. 1 million de gens sont dans l'armée, dans les tranchées. Comment on les fait voter? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit dans les tranchées, voilà, faire voter? 7 millions, 8 millions des Ukrainiens sont à l'étranger. Comment organiser leur vote? On ne sait pas le nombre des Ukrainiens qui sont en Russie. On ne sait pas exactement le nombre des Ukrainiens qui sont dans les territoires occupés. Donc peut-être un tiers de la population est... peut-être même à moitié, et hors de cette procédure. Et dernière question, comment on organise les missions d'observation? Là, c'est aussi une grande question. Est-ce que les observateurs internationaux vont venir en Ukraine pour vraiment tester l'élection?
Bon, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que le peuple ukrainien reste soudé derrière le président. Quand même, des critiques existent contre Volodymyr Zelensky à l'intérieur de son pays, notamment concernant sa lutte contre la corruption, mais aussi la question très sensible de la mobilisation, Anastasia Becchio.
Oui, un sujet assez sensible, un thème qui suscite des débats ici. On parle de méthodes brutales, du personnel chargé de l'enrôlement, qui sont régulièrement pointés. Il y a aussi des actes de violence commis contre le personnel de recrutement militaire. Mais c'est assez difficile d'en mesurer l'ampleur parce que leur diffusion sur les réseaux sociaux agit un peu comme un effet de loupe.
Et alors, est-ce que c'est cette question de l'enrôlement, est-ce que ça crée des fuites de certains hommes?
Oui, alors évidemment, il y a ceux qui essayent d'éviter l'enrôlement, qui vont payer pour obtenir une dérogation, un certificat. Le mois dernier, il y a eu une série d'opérations coup de filet pour enrayer les réseaux de passeurs qui exfiltrent ces hommes, qui fuient la conscription. Il y a ceux qui se cachent, qui se font discrets pour éviter de tomber sur les patrouilles de recruteurs. Il existe d'ailleurs des applications qui indique en temps réel la présence de ces recruteurs à tel ou tel endroit. Et puis, on sait que les États-Unis ont fait pression pour que l'Ukraine abaisse l'âge de la mobilisation à 18 ans. Les autorités ukrainiennes, elles ont lancé un contrat, un nouveau contrat pour les 18-24 ans, assez alléchant, avec des primes plus élevées, des avantages sociaux, avec déjà quelques jeunes qui ont répondu présents.
Et est-ce que tout ça, cette question de la mobilisation, est-ce que ça crée des fractures au sein de la société, Vladimir?
Oui, ça crée des fractures, donc il ne faut pas aussi être naïf. On habite dans un monde très polarisé, et vous voyez, même dans les sociétés comme les vôtres, qui sont de la société de la paix, la polarisation est assez grande. Donc dans la société de la guerre, la polarisation est bien sûr énorme. Donc c'est la polarisation de l'expérience. C'est des fractures entre ceux qui sont dans l'armée et ceux qui sont pas dans l'armée. C'est les fractures entre ceux qui ont resté dans le pays et ceux qui sont partis. Mais bien sûr, on n'a pas des solutions très très vite. Il faut travailler sur les solutions.
Et pour les générations futures, est-ce que ça peut faire craindre des fractures, un traumatisme?
Bah, regardez l'expérience française après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ça a créé des fractures pour des générations et pour des décennies? Bien sûr, ça a créé. Donc, bien sûr, on se prépare à un futur très difficile dans cet aspect-là. Mais je pense que si on prend ce côté solidarité et ce côté de polarisation, j'ai quand même l'espoir, une grande espoir, que c'est côté solidarité qui va quand même dominer.
Et l'espoir pour ce nouveau chapitre qui s'écrit pour l'Ukraine actuellement, est-ce que ça réside, par exemple, peut-être dans l'Union européenne, une adhésion dans l'Union européenne?
Absolument, absolument, parce que on a un monde absolument nouveau. Donc, et comme j'ai dit déjà, c'est pas seulement les Européens qui peuvent apprendre quelque chose aux Ukrainiens. Les Ukrainiens peuvent aussi apprendre quelque chose aux Européens. Et maintenant, les Ukrainiens ne sont pas une partie de problème de l'Europe, mais une partie de solution.
Eh bien, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous, Volodymyr Yarmolenko, Irina Slavinska. Merci aussi à Anastasia Becchio, à la technique pour cette édition spéciale. Boris Vichit et Benjamin Availlou, Jean-Baptiste Le Tondeur à la rédaction en chef. Merci aussi au Café Cupidon pour son accueil parfait comme à chaque fois. Je rappelle nos contenus à retrouver sur notre site rfi.fr.
Tout à l'heure sur RFI, sur le pont des Arts est à Abidjan. Nathalie Amar.
Les riches contre les pauvres. C'est avec une battle d'humoristes que s'est refermée ce dimanche la 10e édition du festival Abidjan Capitale du Rire. Une partie de la troupe sera avec nous, avec aussi Docta Kevin, le dernier lauréat du prix RFI Talent du Rire.